Le journal de la rédaction vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. 50 millions d'euros d'amende infligée à la Banque Postale, une amende record pour manquement dans le dispositif de lutte contre le financement du terrorisme. Explication d'Hakim Kasmi dans un instant. Édouard Philippe soutient les policiers agressés samedi sur les Champs-Élysées et le Premier ministre demande que cessent les provocations en marge du mouvement des Gilets jaunes. La recherche de survivants se poursuit en Indonésie après le tsunami qui a frappé les côtes de Java et de Sumatra. Le bilan s'est alourdi à au moins 373 morts. Nous joindrons Joël Bronner sur place. Il y aura des élections législatives anticipées en avril prochain en Israël. Benjamin Netanyahou remettra son poste de Premier ministre en jeu. Il espère former une nouvelle coalition de droite. C'est une amende record que l'ACPR, le superviseur bancaire français, vient d'infliger à la Banque Postale, 50 millions d'euros. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution sanctionne ainsi des manquements constatés dans le dispositif mis en place par la Banque Postale pour lutter contre le financement du terrorisme. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
L'amende est également assortie d'un blâme. Quelle est donc la faute de la Banque Postale?
Alors, dans le détail, le superviseur bancaire reproche notamment à la Banque Postale de ne pas s'être doté d'un dispositif lui permettant de détecter avant même leur exécution les opérations au bénéfice de personnes faisant l'objet de mesures européennes ou nationales de gel des avoirs. C'est ainsi que la banque a, entre le 1er décembre 2009 et le 13 mars 2017, exécuté au moins 75 opérations de mandats cash nationaux pouvant aller jusqu'à 1500 euros pour le compte de 10 clients dont les éléments d'identité, nom, prénom, date de naissance, correspondent à ceux des personnes qui faisaient l'objet dans 9 cas sur 10 de mesures de gel des avoirs en raison d'activités terroristes. Alors même si la Banque Postale a dès le début 2013 identifié cette correction et ses carences par rapport à ce dispositif, aucune action n'était mise en œuvre malgré les remontrances de l'autorité bancaire. Dernier fait aggravant, les lacunes détectées et les informations s'y rapportant n'avaient pas été soumises au comité de risque du conseil de surveillance de l'ACPR. Enfin, pour sa défense, la Banque Postale rappelle dans un premier temps et dans un communiqué que les sommes incriminées ne représentent que quelques milliers d'euros sur la période d'enquête. La Banque Postale, qui estime ces mesures trop lourdes, a déjà indiqué qu'elle allait avoir recours au Conseil d'État.
Hakim Kasmi, quelques manifestations ponctuelles, des échangeurs autoroutiers fermés, une petite part des gilets jaunes reste mobilisée et le gouvernement et l'exécutif disent rester vigilants. Les Français doivent pouvoir passer les fêtes dans de bonnes conditions, indique l'Élysée, et le Premier ministre rappelle qu'un grand débat permettra bientôt à tous de s'exprimer. Mais ce débat et le fonctionnement de nos institutions exigent un retour à l'ordre et que cessent les provocations, déclare Édouard Philippe. Bonsoir Stephen Goyer.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Le chef du gouvernement a rencontré ce matin l'unité de policiers motocyclistes dont des membres avaient été pris à partie samedi sur les Champs-Élysées et il leur a apporté son soutien.
Une demi-heure d'entretien à la préfecture de police de Paris avec cet objectif pour le Premier ministre. Écouter d'abord la version des faits des quatre policiers et recueillir leurs ressentis après cette agression. Des images qui ont ému, qui ont choqué, pour reprendre les termes d'Édouard Philippe. Images où l'on peut voir les quatre fonctionnaires de police jeter des grenades vers le cortège avant d'être pris pour cible par les manifestants, des jets de pavés, de trottinettes qui ont poussé l'un d'entre eux à sortir son arme pour faire reculer les assaillants. Une violence du mouvement d'ailleurs condamnée fortement par le Premier ministre qui a rappelé chacun à ses responsabilités en évoquant aussi bien les agressions dont sont victimes les policiers que, je cite, les provocations et les déclarations parfois empreintes d'antisémitisme. Référence au quenelle qu'auraient effectué 3 gilets jaunes dans le métro parisien ce week-end. Et face à cette violence, la réponse sera d'abord judiciaire. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, dont une pour violence volontaire avec arme en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique concernant l'agression des policiers ce samedi. Côté politique, Édouard Philippe l'a répété ce matin, le gouvernement a déjà donné sa réponse entre les mesures annoncées par le président de la République, mises en œuvre dès le 1er janvier, et l'ouverture du grand débat national jusqu'à la mi-mars avec cahier de doléances et tirage au sort de citoyens pour faire remonter les problématiques. Le gouvernement et la République En Marche, plus généralement, misent d'ailleurs beaucoup sur ce grand débat, parle d'une nécessité nécessité de renouer le dialogue. Mais dans quel but, avec quelle perspective, c'est la grande question qui reste encore en suspens pour des Gilets jaunes qui attendaient sans doute une réponse plus immédiate.
Stephen Goyer, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, plusieurs permanences de députés de la majorité ont été dégradées. D'autres élus ont reçu des menaces, parfois jusque chez eux. Ce week-end, à Niort, Guillaume Chiche a retrouvé la vitre de sa permanence brisée et la porte abîmée. Le député La République En Marche des Deux-Sèvres porte plainte. Guillaume Chiche.
Les menaces ou les intimidations, qu'elles soient physiques, morales ou matérielles, comme c'est le cas, elles ne me feront jamais dévier ni de mon engagement, ni de mes responsabilités. Il y a une violence qui est de plus en plus extrême. Et cette violence, elle ne doit pas être assimilée au mouvement des Gilets jaunes, mais elle doit cesser. Vous savez, on a l'habitude en France d'avoir des manifestations populaires organisées par des syndicats, qu'ils soient professionnels ou étudiants. Et ces acteurs syndicaux, ils arrivent à effectuer le service d'ordre de telles manifestations. Et quand il y a des casseurs ou des éléments violents, eh bien, ils les sortent. Ils protègent en quelque sorte le cortège. Les mobilisations, la mobilisation et les manifestations des Gilets jaunes, elles doivent se structurer pour pouvoir isoler ces éléments violents, ces éléments radicalisés.
Guillaume Chiche, député de La République En Marche des Deux-Sèvres. Et puis, plus amusant, les adhérents de La République En Marche viennent de recevoir un manuel pour savoir comment défendre la politique du gouvernement lors des repas de famille. Un outil indispensable pour le réveillon, Simon Le Baron.
Déjà l'année dernière, le mouvement macroniste avait envoyé un guide du même genre à ses adhérents. Un an plus tard, la situation est beaucoup plus tendue. Mais le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, l'assure, ce n'est pas un guide de survie en milieu hostile.
On l'a pas appelé manuel de survie, on l'a appelé réponse concrète.
Des réponses concrètes pour des militants novices, pour beaucoup, et souvent eux-mêmes déboussolés.
C'est une attente de la part de tous les adhérents, d'avoir plus d'informations, d'avoir une vision plus complète de ce qu'on essaie de faire.
Alors que répondre quand on vous dit que le prélèvement à la source va nous faire perdre de l'argent ou qu'Emmanuel Macron est le président des riches? Les marcheurs doivent se muer en quasi professionnels de la politique, par exemple, s'ils entendent à table que le pouvoir d'achat a baissé.
Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez des difficultés à vous déplacer, à conduire votre voiture parce que ça coûte trop cher, à vous chauffer? Par exemple, la personne qui nous dit parce que j'ai des difficultés à conduire ma voiture, on explique d'abord pourquoi il y avait eu une hausse des carburants qui était prévue, pourquoi est-ce qu'on l'a arrêtée, et puis quels sont les moyens aussi qu'on peut avoir pour changer de voiture. C'est un outil pour à la fois expliquer, mais aussi dire quels sont les dispositifs qui existent.
Faire de la pédagogie, donc, encore et encore pour convaincre, La République En Marche demande à ses adhérents de faire avec leur famille ce que ministres et députés ont bien du mal à faire avec les Français.
Fin de la crise au SAMU de Seine-Saint-Denis. En réponse à la grève, lancée pour réclamer plus de moyens humains, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France accorde un financement supplémentaire au SAMU 93, ce qui devrait permettre de créer une dizaine de postes de plus, Tara Schlegel.
Le SAMU 93 manquait de moyens humains de façon chronique, comme le montrent les statistiques qui sont fournies par la centaine de centres de réception des appels d'urgence en France. Statistiques exploitées dans une base informatique que Le Point, notamment, avait épluchée en août dernier après le drame survenu à Strasbourg avec la mort de la jeune Naomi. Alors qu'il faudrait normalement décrocher 99% des appels et ce en moins d'une minute, le SAMU 93 dans ce tableau se situe en 7e plus mauvaise position. En moyenne, en France, 84% des appels sont récupérés, mais à Bobigny, ce taux tombe à 7 sur 10 et seulement, dans un cas sur deux, les opérateurs arrivent à décrocher dans la minute. Si on veut relativiser ces chiffres, on peut rappeler, c'est pas vraiment une consolation, que le SAMU 75 à Paris fait encore pire, puisqu'il réceptionnait, c'était des chiffres de 2016, seulement 49% des appels et 36% d'entre eux en moins de 60 secondes. Pour en revenir, Aurélie, à la Seine-Saint-Denis, la grève du jour était symbolique. Les agents sont venus à leur poste, mais ils espéraient bien convertir l'enveloppe exceptionnelle annoncée dimanche en emploi stable. L'Agence régionale de santé a effectivement promis hier 2,4 millions d'euros supplémentaires pour les 8 SAMU d'Île-de-France, 300 000 euros donc pour la Seine-Saint-Denis. Ce que les syndicats ont négocié ce matin, c'est d'embaucher grâce à cette manne des opérateurs supplémentaires. L'ARS a donc validé le projet. Le SAMU passe de 42 à 51 agents pour traiter environ 700 000 appels par an. Dans ce département, l'un des plus pauvres de France, les urgences sont en effet l'un des services publics les plus sollicités.
Tara Schlegel. En Indonésie, les équipes de secours fouillent les décombres au sud de l'île de Sumatra et à l'ouest de l'île de Java. Samedi soir, une vague géante a tout emporté, un tsunami provoqué par l'effondrement d'une partie d'un volcan. Or, dans cette région, la population est très pauvre et à défaut d'aide, elle manque de tout, d'abri, de nourriture et de vêtements. Joël Brenner a pu se rendre sur place où le bilan s'aggrave au fil des heures. Il fait pour l'instant état de 373 morts.
En descendant du nord au sud de la route côtière la plus à l'ouest de Java, j'ai pu observer qu'en tout cas les dégâts causés par le tsunami en front de mer se font de plus en plus visibles, notamment à partir d'une vingtaine de kilomètres. Les premières constructions légères, celles qui sont toutes en bois, sont tout à fait écroulées sur la plage. Et puis un peu plus au sud encore, à la hauteur de la plage de Charita, ce sont cette fois les maisons plus solides en béton qui sont éventrées et des véhicules sont accidentés comme s'ils venaient de percuter un arbre. Sur la plage par exemple de Kosambi, les quelques restaurants qui servaient du poisson ou des fruits de mer il y a encore quelques jours ne sont plus à présent qu'un tas de bois mêlé au sable. Et la dizaine de personnes qui étaient accroupies là lorsque je suis passé m'ont fait part de leur colère vis-à-vis du gouvernement. Ils reprochent au gouvernement de ne pas les avoir prévenus, qu'il n'y ait pas eu d'alerte officielle vis-à-vis du tsunami. Et eux, les difficultés techniques, ça ne leur parle pas, ça ne les concerne pas. Ils estiment qu'ils auraient dû être alertés et ils ne l'ont pas été.
Et en Sicile, l'Etna est entré en éruption. Alors pas de danger là pour les habitants. Mais les images sont impressionnantes, une énorme volute de cendres s'échappe du volcan, ce qui a nécessité la fermeture de l'espace aérien. Et l'éruption avait été précédée d'une série de secousses sismiques ressenties à Catane et alentour. Les précisions de notre correspondante en Italie, Mathilde Imberti.
L'Institut de volcanologie a enregistré 130 secousses sismiques depuis 9h ce matin. Et ce soir encore, une impressionnante colonne de fumée envahit le ciel de Catane, décrit Emiliano, un habitant que nous avons joint par téléphone.
On voit une grande colonne de fumée qui part du volcan et se dirige vers la mer. Ça rend le ciel tout gris, on entend aussi des grondements. Ici, on est tous en train d'admirer le ciel et cette fumée qui descend de la montagne.
Un phénomène géologique bien connu des experts, néanmoins rare. Rosario Calcagno est géologue et guide sur le volcan sicilien.
Oui, il s'agit d'une activité éruptive forte, accompagnée de coulées de lave, et cette activité est toujours précédée de fréquences sismiques. Ce sont des tremblements causés par le transfert rapide de magma le long des flancs. On n'avait pas vu d'activité semblable depuis 2008.
Les habitants de Catane sont en train de s'organiser pour se rendre quand ce sera moins dangereux sur les flancs du volcan pour une excursion. L'éruption n'a pas provoqué de dommages matériels et fait aucun blessé, selon les informations disponibles ce soir.
La dernière éruption majeure de l'Etna remonte à 1992. Les têtes couronnées appellent à l'apaisement en ce temps de Noël. Au Royaume-Uni, ébranlé par la perspective du Brexit, la reine Elisabeth II s'apprête à demander aux Britanniques de faire preuve de respect les uns envers les autres. Quant au roi des Belges, son discours ne pouvait pas faire l'impasse sur la nouvelle crise politique en Belgique. Depuis la démission du Premier ministre Charles Michel, vendredi, le gouvernement ne gère plus que les affaires courantes. Vous avez écouté le roi Philippe, Pierre Benazet.
Depuis 5 ans sur le trône de Belgique, le roi Philippe avait pour l'instant régné sur un pays politiquement stable. La crise politique ouverte par l'Alliance néo-flamande, la NVA, sur le pacte migratoire de l'ONU ou pacte de Marrakech, l'oblige à s'impliquer dans des consultations permanentes avec les dirigeants politiques. Le roi des Belges a décidé de maintenir au 26 mai les élections. Et dans son traditionnel discours de Noël, il avertit à demi-mot que certains des débats de fond qui divisent le royaume risquent fort de polluer la campagne.
Les inégalités, la pauvreté, l'intolérance, le changement climatique sont des questions qui demandent des réponses exhaustives. Préparons-nous aux élections fédérales, régionales et européennes en tenant des débats ouverts et vrais où l'on se respecte. Car le moment du vote doit être le résultat d'une mûre réflexion.
Le roi des Belges n'a pas le droit de donner son avis autrement que lors d'une discussion à deux et à huis clos, mais sa petite phrase sur l'intolérance et les choix électoraux dûment réfléchis sonne clairement comme un avertissement adressé aux nationalistes flamands. L'alliance néo-flamande NVA va probablement continuer à utiliser comme repoussoir l'immigration et le pacte de Marrakech, et la campagne promet donc d'être assez tendue.
Pierre Benazet à Bruxelles. Troisième jour de shutdown aux États-Unis. Les administrations fédérales sont partiellement fermées depuis samedi matin. Conséquence de l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur destiné à freiner l'immigration clandestine à la frontière mexicaine. Mur dont le coût est estimé à 5 milliards de dollars. Les négociations au Congrès doivent reprendre jeudi. Après la signature de l'ordre de retrait des forces américaines de Syrie, la Turquie a acheminé de nouveaux renforts militaires à la frontière syrienne dans la province de Kilis. Ce week-end, une centaine de véhicules militaires turcs étaient déjà arrivés dans la région d'Al-Bab, contrôlée par les forces pro-turques dans le nord de la Syrie. Ankara redoute de voir s'instaurer un embryon d'État kurde à ses portes et prépare donc une éventuelle offensive contre les milices kurdes de Syrie. Alep, la grande ville du nord-ouest de la Syrie, a été très abîmée par les combats qui s'y sont déroulés de 2012 à 2016 et l'UNESCO vient de publier le premier état des lieux exhaustif des dommages causés dans la vieille ville. Connue pour sa monumentale citadelle, ses souks, ses mosquées, Alep témoignait de la richesse et de la diversité de ses occupants successifs, grecs, romains, byzantins, ayoubides. En 2013, elle a été classée sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cet état des lieux qui vient d'être fait doit servir de base technique pour reconstruire ce joyau syrien de l'Orient, Christian Cheneau.
Il y a 3 ans, Alep était reprise par l'armée de Bachar al-Assad au terme d'un terrible siège au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, les armes se sont tues, mais le centre-ville historique reste pétrifié dans un amas de gravats. Grâce à des images satellites, l'UNESCO a pu dresser le premier inventaire des dégâts, explique Mechil Rosler, directrice du Centre du patrimoine mondial.
Ça donne la situation au moment où le gouvernement a repris la ville. Il y a des dégâts énormes. Autour de 10% des bâtiments historiques d'Alep ont été détruits et plus de la moitié des bâtiments évalués ont subi des dommages modérés ou graves. Il faut travailler absolument sur le terrain, donc ça veut dire avec les populations locales, et il faut travailler bâtiment par bâtiment. Je sais, c'est compliqué.
Ce rapport de l'UNESCO pourrait servir de base scientifique pour lancer un plan de reconstruction de la vieille ville, mais les obstacles pour relever Alep de ses ruines sont nombreux. Il y a d'abord le nombre incalculable de mines et d'engins non explosés, toujours disséminés dans les décombres. Les opérations de déminage sont en cours, mais tout cela prend du temps. Et puis, il y a l'obstacle financier, poursuit Mechil Rosler.
C'est très difficile de donner des chiffres, mais c'est absolument clair. C'est une tâche énorme. On ne peut pas terminer en une année. Ça, c'est aussi clair. Donc, je crois pour les bâtiments symboliques, c'est assez facile de trouver des donateurs. Qui est compliqué, c'est les bâtiments pour les habitations normales des gens. Donc ça, c'est certain qu'il faut un effort de la communauté internationale. Nous, on fait une évaluation bâtiment par bâtiment. C'est aussi pour les donateurs parce qu'ils veulent des chiffres exacts. Donc on ne peut pas pour l'instant donner des chiffres globales. Mais ce sont des sommes énormes.
Des centaines de millions d'euros.
Certainement plus.
Des travaux sur certains sites emblématiques d'Alep ont débuté, notamment pour restaurer la mosquée des Omeyyades. Avec une bonne nouvelle, son minaret détruit par les combats, estime l'UNESCO, pourra de nouveau s'élever un jour au-dessus de la vieille ville. Mais tant qu'il n'y aura pas une véritable sortie de crise politique du conflit syrien, la reconstruction d'Alep avancera à pas compter.
Christian Cheneau, Syrie, un plan de reconstruction pour Alep, c'est le titre de votre article à lire sur franceculture.fr. Benjamin Netanyahou annonce la tenue d'élections législatives anticipées en Israël. Les partis de la majorité se sont accordés pour amorcer la dissolution de la Knesset. Elle devrait avoir lieu après-demain et la date du 9 avril est déjà envisagée pour le scrutin. Cette décision est liée à la faiblesse de la coalition, mais aussi au calendrier judiciaire qui préoccupe le Premier ministre Étienne Monin.
Et cette décision n'est pas une surprise. Depuis la démission du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, il y a un peu plus d'un mois, la coalition ne tenait plus qu'à un fil. Le gouvernement ne possédait plus qu'une voix de majorité. Il était difficilement envisageable de gouverner jusqu'en novembre prochain, date officielle de la fin du mandat. Le point de rupture, c'est une loi sur la conscription des ultra-orthodoxes que le gouvernement devait faire passer sous la pression de la Cour suprême, mais qui n'a pas trouvé de majorité, coincée dans les tensions entre laïcs et religieux. Il y a un peu plus d'un mois, la coalition avait déjà été menacée, mais le Premier ministre avait trouvé les mots pour la sauver, soucieux de mettre de la distance entre la campagne électorale et sa gestion de la dernière crise à Gaza, qui avait provoqué de fortes critiques dans l'opinion publique. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est soupçonné de regarder le calendrier judiciaire. Depuis quelques jours, le procureur général étudie 3 dossiers dans lesquels le Premier ministre est menacé d'une mise en examen. Benjamin Netanyahou est donc soupçonné de vouloir jouer l'opinion publique contre le judiciaire en acceptant une accélération du calendrier politique à un moment où, dans les sondages, son parti reste largement en tête.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Après plusieurs années de baisse de fréquentation, due aux retombées du conflit israélo-palestinien, Bethléem voit à nouveau affluer les visiteurs. Des pèlerins du monde entier sont rassemblés près de la basilique de la Nativité, dont les mosaïques ont été restaurées. Et l'ambiance est bien plus paisible que l'an dernier. La reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël avait alors provoqué de nombreuses manifestations. Y aura-t-il de la neige à Noël? Eh bien non, la journée sera calme, mais le ciel très gris, sauf sur le sud-est où le soleil dominera. Les températures seront en baisse, moins 2 à plus 2 degrés le matin sur le nord et l'est, 3 à 8 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera 5 à 15 degrés, jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.